From the conference center at Temple Square.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous assistez à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
Gordon B. Hinckley,
President Gordon B. Hinckley, président de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you this morning.
Nous vous souhaitons la bienvenue ce matin à la quatrième session de la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous saluons tous ceux d'entre vous qui suivent cette réunion à la radio, à la télévision, par Internet ou transmission satellite. Nous remercions les propriétaires et les exploitants des réseaux de diffusion qui transmettent cette conférence. Nous saluons ce matin les personnalités du gouvernement, du monde de l'enseignement et les édiles ici présents. La musique de cette session est interprétée par le chœur du tabernacle sous la direction de Craig Jessop et de Mark Wilberg avec Richard Elliott et Claire Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant Hosanna au grand roi et interprétera à présent « Seigneur, tu me prépareras ». Ensuite, Robert Dellenbach, des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Je suis enfant de Dieu ». Le premier orateur de cette session sera James C. Foss, deuxième conseiller dans la première présidence. Dallin H. Oaks, du Collège des 12 apôtres, Neil L. Anderson, de la présidence des 70, nous adresseront ensuite la parole. Ils seront suivis de Vicky Matsumori, deuxième conseillère dans la présidence générale de la primaire.
Thank you. Our beloved Heavenly Father,
notre Père bien-aimé, avec gratitude, nous nous rassemblons devant toi aujourd'hui, dans cette période de Pâques, pour te remercier pour toi et pour ton Fils, pour son sacrifice infini et l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Père, nous te prions pour que ton esprit guide toute cette conférence à travers tous ceux qui vont participer. Spécialement, nous te prions pour notre prophète bien-aimé, Gordon B. Hinckley, et pour ses conseillers nobles, président Thomas S. Monson et président James E. Faust, combien nous les aimons, et tous nos prophètes voyants et révélateurs. Père, nous te demandons particulièrement pour que tous nos frères et nos sœurs qui sont rassemblés dans le monde, bénis-les et protège-les. Que leurs efforts d'apporter la paix soient récompensés. S'il te plaît, bénis aussi nos missionnaires, nos couples missionnaires, nos présidents de mission et leurs épouses et leurs familles, les présidences du Temple. Combien nous sommes reconnaissants pour ceux qui servent. Et nous te demandons que tes bénédictions viennent sur cette conférence et sur ce jour, et le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
My dear brothers and sisters and friends,
mes chers frères, sœurs et amis, je viens devant vous humblement et une prière au cœur. Je souhaite parler du pouvoir guérisseur du pardon. Dans les belles collines de Pennsylvanie, un groupe de chrétiens dévots mène une vie simple, sans automobile, ni électricité, ni machine moderne. Ils travaillent dur et mènent une vie tranquille, une vie paisible, séparée du monde. La majeure partie de leur nourriture provient de leur propre ferme. Les femmes cousent, tricotent et tissent leurs vêtements, qui sont pudiques et simples. On les appelle les Amish. Un chauffeur de camion de laiterie de 32 ans vivait avec sa famille dans leur communauté des mines de nickel. Il n'était pas Amish, mais sa tournée l'a mené à passer dans beaucoup d'exploitations laitières Amish, où l'on avait fini par l'appeler le laitier silencieux. Au mois d'octobre dernier, il a soudain perdu la raison et la maîtrise de lui-même. Dans son esprit tourmenté, il a reproché à Dieu la mort de son premier enfant et quelques souvenirs non fondés. Il a fait irruption dans l'école Amish sans aucune provocation, a laissé partir les garçons et les adultes et a ligoté les 10 filles. Il a tiré sur elles en tuant 5 et en blessant 5 autres, puis il s'est suicidé. Cette violence révoltante a causé une profonde douleur chez les Amish, mais aucune colère. Il y avait de la souffrance, mais pas de haine. Leur pardon a été immédiat. Tous ensemble, ils ont commencé à tendre la main à la malheureuse famille du laitier. Quand la famille du laitier s'est rassemblée dans sa maison après la fusillade, un voisin Amish est venu, a pris dans ses bras le père du tueur mort et a dit « Nous vous pardonnerons ». Des dirigeants Amish ont rendu visite à la femme et aux enfants du laitier pour leur témoigner leur sympathie, leur pardon, leur aide et leur amour. Près de la moitié des personnes suivant l'enterrement du laitier étaient Amish. À leur tour, les Amish ont invité la famille du laitier à assister au service funèbre des filles qui avaient été tuées. Une paix remarquable est venue sur les Amish, soutenue par leur foi pendant cette crise. Un habitant de la région a résumé de manière très éloquente les suites de cette tragédie quand il a dit « Nous parlions tous le même langage, pas simplement l'anglais, mais le langage de la sollicitude, le langage de la solidarité, le langage du service. Et oui, aussi le langage du pardon. Cela a été un épanchement étonnant de leur foi totale en ce que le Seigneur a enseigné dans le sermon sur la montagne. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. La famille du laitier, qui a tué les 5 filles, a diffusé la déclaration suivante au public. À nos amis, voisins et communautés Amish de la région, notre famille voudrait que chacun de vous sache que nous sommes bouleversés par le pardon, la gentillesse et la miséricorde que vous nous avez témoigné. Votre amour pour notre famille a contribué à assurer la guérison dont nous avons si désespérément besoin. Les prières, les fleurs, les cartes et les dons que vous avez faits ont touché notre cœur d'une manière qu'aucun mot ne peut décrire. Votre compassion s'est étendue au-delà de notre famille, au-delà de notre localité, et est en train de changer notre monde. Et nous vous en remercions sincèrement. Sachez que nous avons eu le cœur brisé par tout ce qui s'est produit. Nous sommes remplis de chagrin pour tous nos voisins Amish que nous avons aimés et que nous continuons à aimer. Nous savons qu'il y a beaucoup de jours pénibles qui attendent toutes les familles qui ont perdu des proches. C'est pourquoi, tandis que nous nous efforçons tous de reconstruire notre vie, nous continuerons à mettre notre espoir et notre confiance dans le Dieu qui apporte tout réconfort. Comment le groupe des Amish tout entier a-t-il pu manifester une telle expression de pardon? C'est grâce à leur foi en Dieu et à leur confiance en sa parole qui fait partie de leur être intime. Ils se voient comme disciples du Christ et veulent suivre son exemple. En entendant parler de cette tragédie, beaucoup de gens ont envoyé de l'argent aux Amish pour payer les soins des 5 filles survivantes et les frais d'enterrement des 5 qui ont été tués. Agissant une fois de plus comme des disciples du Christ, les Amish ont décidé de remettre une partie de l'argent à la veuve du laitier et à ses 3 enfants parce qu'ils étaient aussi victimes de cette terrible tragédie. Le pardon n'est pas toujours instantané, comme cela a été le cas des Amish. Quand des enfants innocents ont été maltraités et tués, la plupart d'entre nous ne pensent pas d'emblée au pardon. Notre réaction naturelle est la colère. Nous pouvons même nous sentir le droit de rendre l'appareil à quiconque nous fait du tort, à nous ou à notre famille. Le docteur Sidney Simon, autorité reconnue dans le domaine de la réalisation des valeurs, a donné une excellente définition du pardon appliqué aux rapports humains. Pardonner, c'est libérer et consacrer à un meilleur usage l'énergie précédemment dépensée à entretenir des rancœurs, à nourrir des ressentiments et à entretenir des blessures non guéries. C'est redécouvrir les forces que nous avons toujours eues et réimplanter notre capacité illimitée de comprendre et d'accepter les autres et nous-mêmes. La plupart d'entre nous ont besoin de temps pour surmonter la douleur et la perte de proches. Nous pouvons trouver toutes sortes de raisons de remettre le pardon à plus tard. Une de ces raisons, c'est de vouloir attendre pour lui pardonner, que celui qui a mal agi se repente. Or, pareille temporisation nous fait perdre la paix et le bonheur que nous pourrions connaître. Le choix absurde de ressasser des torts infligés il y a longtemps n'apporte pas le bonheur. Certains entretiennent des rancunes toute leur vie, sans se rendre compte que pardonner courageusement à ceux qui nous ont fait du tort est sain et thérapeutique. Le pardon est plus facile quand, comme les Amish, nous avons foi en Dieu et faisons confiance à sa parole. Une telle foi permet aux gens de résister à ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Elle permet également aux gens de regarder au-delà d'eux-mêmes. Chose plus importante, elle leur permet de pardonner. Nous souffrons tous de ce que nous infligent des expériences qui semblent n'avoir ni rime ni raison. Nous ne pouvons ni les comprendre ni les expliquer. Nous ne saurons sans doute jamais dans cette vie pourquoi certaines choses se produisent. Dieu seul connaît la raison de certaines de nos souffrances. Mais parce qu'elles se produisent, il faut les supporter. Howard W. Hunter a dit que Dieu sait ce que nous ne savons pas et voit ce que nous ne voyons pas. Brigham Young a avancé cette idée profonde qu'une partie au moins de notre souffrance a un but quand il a dit « Il sera permis que toutes les calamités qui peuvent s'abattre sur les mortels tombent sur le petit nombre pour le préparer à jouir de la présence du Seigneur. Toutes les épreuves et toutes les expériences que vous avez traversées sont nécessaires à votre salut. » Si nous pouvons éprouver du pardon pour ceux qui nous ont fait du tort, nous nous élèverons à un plus haut niveau d'estime de nous-mêmes et de bien-être. Des études récentes montrent que les gens à qui l'on enseigne à pardonner sont moins en colère, plus remplis d'espoir, moins déprimés, moins anxieux et moins stressés, ce qui produit un bien-être physique plus grand. Une autre de ces études conclut que le pardon est une libération dont on peut se faire don à soi-même. À notre époque, le Seigneur nous a adressé cette mise en garde. Vous devez vous pardonner les uns aux autres. Et ensuite, il en a fait une obligation quand il dit, « Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. » Une sœur qui avait connu un divorce douloureux a reçu ce bon conseil de son évêque. Conservez dans votre cœur un endroit pour le pardon, et quand il viendra, faites-lui bon accueil. Pour les Amish, il était déjà là parce que le pardon est une composante fondamentale de leur religion. Leur exemple de pardon est une expression sublime d'amour chrétien. Ici, à Salt Lake City, en 1985, Stephen Christensen, évêque, qui n'était nullement en faute, a été tué de manière cruelle et insensée, mais intentionnelle, par une bombe. Il était le fils de Mac et Joanne Christensen, mari de Terry et père de 4 enfants. Avec le consentement de ses parents, je raconte ce que cette expérience leur a appris. Après ce terrible méfait, les reporters ont poursuivi impitoyablement les membres de la famille. À un moment donné, cette intrusion des médias a offensé l'un des membres de la famille au point que Mac, le père de Stephen, a dû le retenir. Mac a alors pensé. Cette affaire va détruire ma famille si nous ne pardonnons pas. Le venin et la haine ne finiront jamais si nous ne les sortons pas de notre système. La guérison et la paix sont venues quand la famille s'est purifiée le cœur de la colère et a pu pardonner à l'homme qui avait ôté la vie à leur fils. Nous avons récemment eu, ici en Utah, 2 autres tragédies dans lesquelles se sont manifestées la foi et le pouvoir guérisseur du pardon. Gary Serran, dont la femme et 2 enfants ont été tués la veille de Noël lorsque leur véhicule a été heurté par un camion, a immédiatement exprimé son pardon et son souci pour le conducteur présumé ivre. En février dernier, quand une voiture est entrée en collision avec son véhicule, Christopher Williams, évêque, a eu une décision à prendre, celle de pardonner inconditionnellement au conducteur qui avait causé l'accident pour que le processus de guérison puisse se produire sans entrave. Qu'est-ce que de telles expériences peuvent nous apprendre à tous? Nous avons besoin de prendre conscience de nos sentiments de colère et de les avouer. Il faut de l'humilité pour cela. Mais si nous nous mettons à genoux et demandons à notre Père Céleste de nous faire éprouver un sentiment de pardon, il nous aidera. Le Seigneur exige de nous de pardonner à tous les hommes pour notre propre bien, parce que la haine retarde la croissance spirituelle. Ce n'est qu'en nous débarrassant de la haine et de la rancœur que le Seigneur peut mettre du réconfort dans notre cœur, comme il l'a fait pour la communauté Amish, les Christensen, les Serran et la famille Williams. Bien entendu, la société doit être protégée contre les criminels endurcis, parce que la miséricorde ne peut pas dépouiller la justice. Frère Williams, évêque, a très bien évoqué ce concept quand il a dit « Le pardon est source de pouvoir, mais ne nous soulage pas des conséquences. Quand la tragédie frappe, nous ne devons pas réagir en cherchant à nous venger, mais laisser la justice suivre son cours et puis faire son deuil. » Il n'est pas facile de faire son deuil et de vider son cœur du ressentiment qui le ronge. Le Sauveur nous a offert à tous une paix précieuse par son expiation. Mais ce n'est possible que si nous sommes disposés à chasser les sentiments négatifs de colère, de dépit ou de vengeance. Pour nous tous qui pardonnons à ceux qui nous offensent, même à ceux qui ont commis des délits graves, L'expiation apporte de la paix et du réconfort. N'oublions pas que nous devons pardonner pour être pardonnés. Pour employer les termes d'un de mes cantiques préférés, et pour avoir le pardon, à ton frère fais-en don. De tout mon cœur et de toute mon âme, je crois au pouvoir guérisseur qui peut nous être donné quand nous suivons la recommandation du Sauveur de pardonner à tous les hommes. Au nom de Jésus-Christ, amen.
I have felt impressed to speak about divorce.
Je me suis senti poussé à parler du divorce. C'est un sujet sensible parce qu'il suscite des émotions très fortes chez les personnes qu'il a touchées de différentes manières. Certains se considèrent, eux ou leurs proches, comme victimes du divorce. D'autres se considèrent comme ses bénéficiaires. Les uns voient dans le divorce une preuve d'échec. Les autres le considèrent comme une issue de secours essentielle au mariage. D'une manière ou d'une autre, le divorce touche la plupart des familles de l'Église. Quel que soit votre point de vue, veuillez écouter, tandis que j'essaye de parler clairement des effets du divorce sur les relations familiales éternelles que nous recherchons selon le plan de l'Évangile. J'en parle parce que cela me préoccupe, mais avec espoir. Nous vivons dans un monde où le concept tout entier du mariage est en péril et où le divorce est banalisé. La notion que la société a fortement intérêt à préserver le mariage pour le bien commun, aussi bien que pour le bien du couple et de ses enfants, a été remplacée pour beaucoup par l'idée que le mariage n'est qu'une relation privée entre adultes consentants, à laquelle chacun peut mettre fin à volonté. Les pays qui n'avaient pas de loi sur le divorce en ont adopté une. Et la plupart des pays qui permettent le divorce l'ont rendu plus facile à obtenir. Malheureusement, en vertu des lois sur le divorce qui suppriment la notion de faute, il est devenu plus facile de rompre les liens du mariage avec un conjoint non désiré que le contrat de travail d'un employé non désiré. Certains vont jusqu'à qualifier un premier mariage de mariage en attendant, comme le petit logement qu'on habite un certain temps avant de passer à autre chose. Le déclin de la notion de permanence et du caractère précieux du mariage est lourd de conséquences. Influencés par le divorce de leurs propres parents ou par l'idée populaire que le mariage est un boulet au pied qui empêche de se réaliser, certains jeunes évitent le mariage. Beaucoup de ceux qui se marient s'abstiennent de s'engager pleinement, prêts à prendre la fuite à la première grosse difficulté. Or, les prophètes modernes ont averti que considérer le mariage comme un simple contrat que l'on peut signer selon son bon plaisir et dénoncer à la première difficulté est un mal qui mérite une condamnation sévère, surtout lorsqu'il y a des enfants qui en souffrent. Dans les temps anciens, et même en vertu des lois tribales de certains pays où nous avons maintenant des membres, les hommes ont le pouvoir de divorcer de leurs femmes pour n'importe quelle vétille. Le Sauveur s'est insurgé contre cette oppression inique des femmes en disant « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse celle qui est écartée commet aussi l'adultère. Le genre de mariage requis pour l'exaltation, éternel dans la durée et divin dans sa qualité, n'envisage pas le divorce. Dans les temples du Seigneur, les couples sont mariés pour toute l'éternité. Mais certains mariages ne progressent pas vers cet idéal. À cause de la dureté de notre cœur, le Seigneur n'impose pas actuellement les conséquences de la norme céleste. Il permet aux personnes divorcées de se remarier sans encourir la flétrissure de l'immoralité spécifiée dans la loi supérieure. À moins d'avoir commis des transgressions graves, le membre divorcé peut se qualifier pour une recommandation à l'usage du temple, en vertu des mêmes principes de dignité qui s'appliquent aux autres membres. Il y a beaucoup de bons membres de l'Église qui ont divorcé. C'est à eux que je m'adresse d'abord. Nous savons que beaucoup d'entre vous sont des victimes innocentes, dont les anciens conjoints ont constamment trahi les alliances sacrées, ou abandonné ou refusé de s'acquitter des responsabilités du mariage pendant une période prolongée. Les membres qui ont subi ces mauvais traitements savent au premier endroit qu'il y a des situations pires que les divorces. Quand un mariage est mort et qu'il n'y a aucun espoir de le ranimer, il est nécessaire d'avoir le moyen d'y mettre un terme. J'en ai vu des exemples aux Philippines. Deux jours après le mariage au temple, un mari a abandonné sa jeune épouse et on n'a plus entendu parler de lui pendant plus de 10 ans. Une femme mariée s'est enfuie et a obtenu le divorce dans un autre pays. Mais son mari, qui est resté sur place, est toujours marié aux yeux de la loi philippine. Du fait que le divorce n'est pas prévu dans ce pays, ces victimes innocentes de l'abandon n'ont aucun moyen de mettre fin à leur statut de personne mariée et de refaire leur vie. Nous savons que certains repensent à leur divorce en regrettant leur responsabilité, partielle ou majeure, dans la rupture. Tous ceux qui sont passés par le divorce connaissent la douleur et ont besoin du pouvoir guérisseur et de l'espoir qu'apporte l'expiation. Ce pouvoir guérisseur et cet espoir sont là pour eux et également pour leurs enfants. Je m'adresse maintenant aux membres mariés, particulièrement à ceux qui envisagent peut-être le divorce. Je vous exhorte vivement, vous et ceux qui vous conseillent, d'affronter la réalité que pour la plupart des problèmes du mariage, le remède n'est pas le divorce, mais le repentir. Souvent, la cause n'est pas l'incompatibilité, mais l'égoïsme. La première étape n'est pas la séparation, mais le changement de conduite. Le divorce n'est pas la panacée, et il entraîne souvent du chagrin à long terme. Une étude menée dans le monde entier sur le niveau du bonheur avant et après les grands événements de la vie révèle qu'en général, les gens retrouvent plus facilement le bonheur après la mort de leur conjoint qu'après un divorce. Les gens mariés qui espèrent que le divorce les aidera à mettre fin au conflit s'aperçoivent souvent qu'il les aggrave, car les complications qui suivent le divorce, surtout quand il y a des enfants, produisent de nouveaux conflits. Pensez d'abord aux enfants. Étant donné que le divorce sépare les intérêts des enfants de ceux de leurs parents, les enfants en sont les premières victimes. Les spécialistes de la question familiale nous disent que la cause la plus importante du déclin actuel du bien-être des enfants est l'affaiblissement actuel du mariage, du fait que l'instabilité familiale diminue l'engagement des parents vis-à-vis de leurs enfants. Nous savons que les enfants élevés dans un foyer monoparental à la suite d'un divorce sont beaucoup plus menacés par la drogue et par l'alcool, les relations sexuelles hors du mariage, l'échec scolaire et diverses sortes de sévices. Un couple qui a de graves problèmes matrimoniaux devrait consulter son évêque. En tant que juge du Seigneur, il décidera des recommandations ou peut-être même d'une mesure disciplinaire qui conduiront à la guérison. Un évêque ne conseille pas aux membres de divorcer, mais il peut les aider à vivre avec les conséquences de leurs décisions. Selon la loi du Seigneur, un mariage, tout comme une vie humaine, est une chose précieuse et vivante. Si notre corps est malade, nous cherchons à le guérir. Nous n'abandonnons pas. Tant qu'il y a une chance quelconque de survie, nous cherchons obstinément la guérison. Il devrait en aller de même de notre mariage. Et si nous l'invoquons, le Seigneur nous aidera et nous guérira. Les conjoints qui sont membres de l'Église doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour préserver leur mariage. Ils devraient suivre les conseils sur le mariage de la première présidence, publiés dans le Liaona d'avril 2007. Pour éviter ce que l'on dit être de l'incompatibilité, ils devraient être les meilleurs amis, gentils et prévenants, sensibles aux besoins l'un de l'autre, cherchant toujours à se rendre mutuellement heureux. Ils devraient être associés dans les finances familiales et collaborer pour gérer leurs désirs des choses temporelles. Bien entendu, il peut y avoir des moments où l'un des conjoints n'est pas à la hauteur et où l'autre est blessé et éprouve de la douleur. Quand cela se produit, celui qui est lésé doit faire la part des choses entre les déceptions du moment, ce qu'il y a eu de bon dans le passé et les perspectives d'amélioration à venir. Ne ressassez pas les torts du passé, ne les ruminez pas sans cesse. Dans les relations conjugales, les ressentiments sont destructeurs, le pardon est divin. Priez pour que l'Esprit du Seigneur vous guide, pour pardonner les torts, comme Président Faust nous l'a enseigné si merveilleusement, pour surmonter les défauts et pour fortifier les rapports. Si vous êtes déjà descendu dans les bas étages d'un mariage qui n'en a que le nom, donnez-vous la main, mettez-vous à genoux ensemble et suppliez Dieu de vous accorder l'aide et le pouvoir guérisseur de l'expiation. Vos supplications humbles et unies vous rapprocheront du Seigneur et l'un de l'autre et vous aideront à remonter la pente escarpée vers l'entente conjugale. Réfléchissez aux observations suivantes d'un évêque sage et fort d'une longue expérience des conseils aux membres ayant des problèmes conjugaux. En parlant de ceux qui ont fini par divorcer, il a dit « Tous, sans exception, ont dit qu'ils reconnaissaient que le divorce n'était pas une bonne chose, mais tous affirmaient que leur situation était un cas spécial. Tous, sans exception, mettaient en avant la faute du conjoint et attribuaient peu de responsabilité à leur propre comportement. Il n'y avait plus de communication. » Tous, sans exception, regardaient en arrière, refusant d'abandonner les bagages du comportement passé sur le bord de la route et de pouvoir repartir. Dans un certain nombre de cas, il y avait eu un péché grave, mais le plus souvent, leur amour s'était simplement refroidi et ils disaient « Il ne satisfait plus à mes besoins » ou bien « Elle a changé ». Tous s'inquiétaient des conséquences sur les enfants, mais la conclusion était toujours « C'est pire pour eux de nous avoir ensemble en train de nous disputer ». À l'inverse, les couples qui ont suivi les recommandations de cet évêque et sont restés ensemble en sont sortis avec un mariage plus fort. Cette perspective a commencé par leur engagement mutuel à respecter les commandements, à continuer d'aller à l'église, de lire les Écritures et de prier, ainsi qu'à travailler à leurs propres imperfections. Ils ont reconnu l'importance et le pouvoir de l'expiation pour leurs conjoints et pour eux-mêmes. Et ils ont été patients et ont essayé encore et encore. L'évêque a rapporté que quand les couples qu'elle a conseillés ont fait cela, en se repentant et en travaillant à sauver leur mariage, la guérison a eu lieu dans 100% des cas. Même ceux qui pensent que c'est entièrement la faute de leur conjoint ne devraient pas agir à la hâte. Une étude a trouvé, je cite, « Aucune preuve que le divorce ou la séparation ait typiquement rendu les adultes plus heureux qu'en restant dans un mariage malheureux. Deux adultes mal mariés sur trois qui ont évité le divorce ont signalé 5 ans plus tard qu'ils étaient heureux en ménage. Une femme qui a persisté à rester dans un mariage intolérable pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que les enfants soient grands, a expliqué. Il y avait 3 participants à notre mariage, mon mari, moi et le Seigneur. Je me suis dit que si 2 de nous pouvaient tenir le coup, nous pourrions sauver la mise. » Le pouvoir de l'espoir exprimé dans ces exemples est parfois récompensé par un repentir et un changement de conduite, mais parfois ce n'est pas le cas. Les situations personnelles sont très variables. Nous ne pouvons pas contrôler les choix des autres et nous n'en sommes pas responsables, même lorsqu'ils ont un effet extrêmement pénible sur nous. Je suis sûr que le Seigneur aime et bénit les maris et les femmes qui essayent avec amour d'aider un conjoint aux prises avec des problèmes aussi tenaces que la pornographie ou tout autre comportement provoquant une dépendance ou avec les conséquences à long terme de mauvais traitements infligés à des enfants. Quel qu'en soit le résultat et aussi difficile que soient vos expériences, vous avez la promesse que les bénédictions de relations familiales éternelles ne vous seront pas refusées si vous aimez le Seigneur, respectez ses commandements et faites tout simplement de votre mieux. Lorsque le jeune Jacob connut des afflictions et beaucoup de tristesse, causées par d'autres membres de la famille, son père Léhi lui assura, tu connais la grandeur de Dieu, et il consacrera tes afflictions à ton avantage. De même, l'apôtre Paul nous assure que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour terminer, quelques mots à ceux qui envisagent le mariage. La meilleure manière d'éviter de devoir divorcer d'un conjoint infidèle, brutal ou égoïste, est d'éviter le mariage avec ce genre de personne. Si vous souhaitez bien vous marier, renseignez-vous bien. Faire la connaissance de quelqu'un en traînant dans la rue avec lui ou en échangeant des renseignements sur l'Internet ne constitue pas une base suffisante pour le mariage. Il faut sortir ensemble. Ensuite, il doit y avoir des fréquentations suivies, soigneuses, réfléchies et approfondies. Ménagez-vous de nombreuses occasions de tester le comportement du futur conjoint dans diverses situations. Les fiancés doivent apprendre tout ce qu'ils peuvent sur la famille dont ils feront bientôt partie par le mariage. Ce faisant, il faut bien se rendre compte qu'un bon mariage n'exige pas un homme parfait ou une femme parfaite. Il exige seulement un homme et une femme qui sont engagés à faire des efforts ensemble vers la perfection. Le président Spencer W. Kimball a enseigné, je cite, « Un couple qui se rend à l'hôtel du mariage doit se rendre compte que pour parvenir au mariage heureux dont il rêve, il doit savoir que le mariage implique le sacrifice, le partage et même la limitation de certaines libertés personnelles. Il implique des économies rigoureuses de longue durée. Il implique la venue d'enfants qui s'accompagnent de fardeaux financiers, de l'obligation de les servir, de la nécessité d'en prendre soin et de se faire du souci pour eux. Mais cela s'accompagne aussi des émotions les plus profondes et les plus douces qui soient. Je témoigne par expérience personnelle de la douceur du mariage et de la vie de famille que la déclaration sur la famille décrit comme fondée sur la responsabilité solennelle du mari et de la femme de s'aimer et de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants et sur les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne qu'il est notre Sauveur, et je prie en son nom pour tous ceux qui s'efforcent d'obtenir les bénédictions suprêmes d'une famille éternelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je prends comme sujet d'aujourd'hui quelque chose que le président Hinckley a dit lors de la conférence générale d'avril 1973. Je venais de rentrer de mission. Il y avait tant de choses qui semblaient m'attendre. Est-ce que je serais capable de faire systématiquement les bons choix toute ma vie? Gordon B. Hinckley a parlé de sa rencontre avec un jeune officier de marine d'Asie qui précédemment n'était pas chrétien, mais qui, pendant sa formation aux États-Unis, s'était renseigné sur l'Église et avait été baptisé. Le président Hinckley lui a demandé, « Chez vous, les gens ne sont pas chrétiens. Qu'arrivera-t-il lorsque vous rentrerez chrétien, et qui plus est, chrétien mormon ?» Le visage de l'officier s'est assombri et il a répondu, « Ma famille sera déçue. Quant à mon avenir et à ma carrière, je risque de voir se fermer toutes les portes. » Le président Hinckley a demandé, « Êtes-vous disposé à payer un tel prix pour l'Évangile ?» Ses yeux sombres remplis de larmes, il a répondu par une question. « Il est vrai, n'est-ce pas ?» Le président Hinckley a répondu, « Oui, il est vrai. » À quoi l'officier a répondu, « Alors, rien d'autre ne compte. » Au fil des années, j'ai réfléchi à ces mots. Il est vrai, n'est-ce pas? Alors, rien d'autre ne compte. La cause pour laquelle nous œuvrons est vraie. Nous respectons les croyances de nos amis et de nos voisins. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Nous pouvons apprendre beaucoup de choses auprès d'autres hommes et femmes de foi et de bien. Nous savons, cependant, que Jésus est le Christ. Il est ressuscité. À notre époque, par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, la prêtrise de Dieu a été rétablie. Nous avons le don du Saint-Esprit. Le livre de Mormon est ce que nous affirmons qu'il est. Les promesses du Temple sont sûres. Le Seigneur lui-même a déclaré que la mission unique et spécifique de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et d'être une lumière pour le monde et une messagère pour préparer le chemin devant lui, au moment où l'Évangile roule jusqu'aux extrémités de la terre. Il est vrai, n'est-ce pas? Alors, rien d'autre ne compte. Naturellement, il y a pour nous tous d'autres choses qui comptent. Quand j'ai entendu le discours du président Hinckley, j'avais alors 21 ans. Je devais prendre mes études au sérieux. J'avais besoin d'un emploi pour pouvoir les continuer. Il me fallait trouver le moyen de convaincre une jeune fille de risquer sa chance avec moi. Et j'avais d'autres activités de valeur. Comment trouvons-nous notre voie au milieu de toutes ces choses qui comptent? Nous simplifions et purifions notre vision des choses. Il y a des choses qui sont mauvaises et qu'il faut éviter. Il y en a d'autres qui sont bien, d'autres encore qui sont importantes et certaines qui sont absolument essentielles. Le Sauveur a dit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La foi est non seulement un sentiment, mais c'est aussi une décision. Avec la prière, l'étude, l'obéissance et les alliances, nous édifions et fortifions notre foi. Notre conviction du Sauveur et de son œuvre moderne devient l'objectif puissant à travers lequel nous jugeons tout le reste. Ensuite, quand nous nous trouvons dans le creuset de la vie, comme Frère Hawks l'a dit, nous avons la force de suivre la bonne voie. Le président Hinckley l'a dit comme ceci. Quand une personne est motivée par de profondes convictions de la vérité, elle se discipline non pas à cause de ce que l'Église demande, mais à cause de la connaissance qu'elle a dans le cœur. Sommes-nous suffisamment motivés par de profondes convictions de la vérité? Nos choix sont-ils le reflet de cette motivation? Sommes-nous en train de devenir ce que nous voulons devenir? Il est vrai, n'est-ce pas? Alors, rien d'autre ne compte. Nous savons ce qui est bien. Il y a quelques années, Cathy, ma femme, qui était avec nos petits-enfants pendant que leurs parents étaient partis, notre petit-fils de 4 ans a poussé vigoureusement son petit frère. Après avoir consolé l'enfant qui pleurait, Cathy se tournait vers celui de 4 ans et lui a demandé « Pourquoi as-tu poussé ton petit frère ?» Il a regardé sa grand-mère et a répondu « Mimi, je regrette. J'ai perdu ma bague CLB et je ne peux plus choisir le bien. » Nous devons faire attention, car les excuses peuvent nous empêcher de progresser. On trouve de profondes convictions de la vérité dans le cœur des saints des derniers jours dans tous les pays du monde. Cette force de la foi fait avancer l'œuvre du royaume. Il y a bien des années, ma femme et moi, nous avons tenu compagnie à une sœur courageuse en France dont le mari, encore dans la trentaine, passait de l'autre côté du voile. La responsabilité de former et de guider seule en justice ses 4 jeunes enfants lui semblait écrasante. Pourtant, 16 ans plus tard, ses 3 fils sont rentrés de mission et sa fille est scellée dans le temple. Je connais un frère au Brésil qui est entré dans l'Église à 16 ans, seul membre de sa famille. Quand le moment est venu de faire sa mission, ses parents s'y sont opposés. Il n'a eu aucune nouvelle d'eux pendant sa mission et quand il est revenu, il a logé chez son évêque. L'histoire finit pourtant bien, car il a maintenant de beaux enfants et est chirurgien dentiste, et ses parents seraient heureux s'ils pouvaient mener ses frères à s'intéresser à l'Église. Je connais un frère dans un pays d'Amérique latine qui, après son baptême, a décidé non seulement d'être honnête dans sa dîme, mais aussi de payer entièrement ses impôts, quelque chose que ses concurrents ne faisaient pas. Le Seigneur l'a béni pour son honnêteté. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font discrètement. Des jeunes qui, à leur retour de mission, ne retardent pas la responsabilité de trouver leur conjoint éternel, des femmes justes qui désirent des enfants et qui consacrent leur vie à les élever dans l'amour et la vérité. des familles qui limitent soigneusement l'influence des médias et de l'Internet qui pourraient entacher leur esprit. Des maris et des femmes qui trouvent plus d'heures pour être ensemble dans le temple. Les enfants peuvent également acquérir cet objectif de la foi. J'ai récemment rencontré des jeunes à Séoul, en Corée, qui, à cause d'un programme scolaire exigeant, ne rentrent chez eux que très tard le soir, mais qui vont au séminaire matinal à 6 heures, 5 jours par semaine. Je connais un joueur de baseball de 8 ans, une vedette de l'équipe qui, de son propre chef, a expliqué à son entraîneur qu'il ne pourrait pas participer à la finale parce qu'elle allait avoir lieu un dimanche. Beaucoup de ces actes discrets de foi profonde ne sont connus que de Dieu, mais ils sont enregistrés au ciel. Il est vrai, n'est-ce pas? Alors rien d'autre ne compte. Le Sauveur a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je témoigne qu'il est vrai et qu'il compte vraiment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
I love the Book of Mormon.
J'aime le livre de Mormon. Il contient de merveilleuses histoires pour les enfants de tout âge, mais plus important encore, il enseigne des leçons intemporelles qui sont souvent reprises dans les chants à la primaire. Par exemple, on peut tirer une grande leçon du chant sur les guerriers des Lamans. Nous chantons, nous ressemblons aux guerriers des Lamans, comme eux, très tôt préparés. Beaucoup d'entre nous pensent également, nous sommes nés, tout comme les filles de bons parents. Aujourd'hui, je m'adresse à vous, membres de première génération, qui peut-être être nés de bons parents, mais qui pourtant n'avaient pas appris l'Évangile au foyer. Au lieu de ressembler aux guerriers des Lamans qui avaient appris de leur mère que Dieu les délivrerait, il se peut que vous soyez comme le peuple d'Ammon, leurs parents qui ont grandi sans la foi. Et peut-être utile de revoir l'histoire du peuple d'Ammon. Ces gens étaient lamanites et l'Évangile leur avait été enseigné par Ammon, Aaron et d'autres. Lorsqu'ils ont accepté l'Évangile, ces lamanites ont pris le nom d'Anti-Néphi-Léhi et ont été appelés plus tard le peuple d'Ammon. Les fils de ce peuple d'Ammon ont constitué l'armée des Lamans qui a aidé à combattre les lamanites non convertis. Aussi, la force de l'armée des Lamans a donc véritablement commencé avec leurs parents qui formaient le peuple d'Ammon. Ce sont eux qui ont appris l'Évangile à partir des Écritures. Ce sont eux qui ont découvert le pouvoir de la prière. Et ce sont eux qui ont fait des alliances avec le Seigneur et les ont respectés. Et cela commence avec vous, tout comme cela a commencé avec eux. Vous qui appartenez à la première génération de membres, c'est vous qui commencez à instruire et à fortifier la génération suivante. Aaron, qui était un grand missionnaire, a utilisé les Écritures pour enseigner au roi des Lamanites et au peuple d'Ammon la foi et le repentir, la mission de Jésus-Christ et le plan du salut. Aujourd'hui, la lecture et l'étude des Écritures continuent de fortifier notre foi, nous aident à résister à la tentation et nous permettent de nous rapprocher de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Cependant, la lecture des Écritures peut présenter des difficultés pour tout le monde. Boyd K. Packer raconte ses premières tentatives pour lire le livre de Mormon lorsqu'il était adolescent. Je l'ai ouvert et j'ai lu, moi, Néphi, étant né de bons parents. C'était intéressant et j'arrivais à suivre jusqu'à ce que j'arrive au chapitre d'Ésaïe. Quelques mois plus tard, j'ai donc décidé d'essayer de nouveau de lire le livre de Mormon. J'ai lu, moi, Néphi, étant né de bons parents, mais chaque fois je me heurtais à la barrière de ces chapitres d'Ésaïe. Finalement, j'ai décidé que j'allais les lire. Et bien sûr, le président Packer les a lus. La persévérance est la clé. À chaque lecture des Écritures, des mots inconnus prennent une signification. On peut y lire le récit de héros et d'actes de bravoure. On peut y découvrir les tendres miséricordes du Seigneur. Et par-dessus tout, on peut ressentir l'amour de Dieu et savoir que Jésus-Christ est notre Sauveur. La prière est un autre moyen de fortifier la foi. Lorsque le roi des Lamanites a voulu savoir ce qu'il devait faire pour recevoir la joie de l'Évangile, il a prié le Seigneur. Nous aussi, nous avons la promesse que si nous demandons, nous recevrons. Stan Lett est un ami de l'Église de 19 ans à Hong Kong. Il était ravi d'avoir découvert l'Évangile et voulait se faire baptiser, jusqu'à ce qu'il entende ses amis critiquer l'Église. Il a rencontré les missionnaires. Ces derniers lui ont témoigné que Dieu se souciait assez de lui pour répondre à ses prières. Ils l'ont invité à s'agenouiller pour demander à son Père Céleste si les enseignements étaient vrais. L'un des missionnaires a fait une brève prière, puis son collègue a fait de même. Stanley a prié à son tour. Lorsqu'il a terminé son humble prière, ils lui ont demandé « Stanley, que ressentez-vous ?» Il a lentement relevé la tête et a répondu, presque dans un murmure, « Baptême ». Pour finir, le fait de contracter et de respecter des alliances augmente la foi. Les gens qu'on appelait le peuple d'Ammon ont fait l'alliance que, plutôt que de verser le sang de leurs frères, ils donneraient leur vie. Nous faisons une alliance lorsque nous nous faisons baptiser et que nous prenons sur nous le nom du Christ. Nous nous souvenons de ces alliances lorsque nous prenons la Sainte Seine. Et lorsque nous respectons ces alliances, nous pouvons avoir la compagnie constante du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le Consolateur, qui nous enseigne tout. Une sœur au Mexique avait 16 ans lorsque les missionnaires ont frappé à sa porte. Elle a expliqué que lorsqu'ils ont enseigné selon l'Esprit, on aurait dit qu'ils avaient ôté des pansements de ses yeux et que le Seigneur éclairait son intelligence. Elle a ajouté, « La parole de Dieu ainsi que mes prières m'ont donné la force de surmonter mon épreuve suivante, celle de faire face à mon Père. Lorsque ma famille m'a rejetée à cause de mon baptême, l'Esprit du Seigneur m'a fortifiée en me murmurant, « C'est bien, continue !» Certains membres de ta famille deviendront membres de l'Église. » La lecture des Écritures, la prière, ainsi que l'acceptation et le respect d'alliances n'ont pas seulement aidé le peuple d'Ammon, mais également les membres de première génération de partout, moi y compris. Voyez-vous, je suis née de mon parent et je n'ai appris l'Évangile à la maison. Cependant, mes parents m'ont enseigné des valeurs morales et la bonne conduite. Je me souviens que mon père non-membre m'a aidé à écrire le premier discours que j'ai fait à l'église. Je devais parler de l'honnêteté et au lieu de citer le 13e article de foi, nous avons utilisé l'exemple d'Abraham Lincoln, qu'on surnommait Abbé, l'honnête. Ce sont mes instructrices de la primaire, mes dirigeantes des jeunes filles et mes dirigeants de la prêtrise qui ont dû m'enseigner l'Évangile. Lorsque j'avais 7 ans, mon instructrice de l'école du dimanche des enfants nous a enseigné la prière. Et j'ai voulu prier. Elle nous a enseigné la dîme et j'ai voulu payer la dîme. Elle nous a enseigné le jeûne et j'avais que 7 ans, alors je ne voulais pas jeûner. Mais lorsqu'elle nous a enseigné le baptême, j'ai voulu me faire baptiser. Je suis reconnaissante à mes bons parents qui m'ont soutenue dans cette décision et qui sont plus tard aussi devenus membres de l'Église. Cela commence par nous. Les Ammonites vivaient conformément à l'Évangile et ils furent fermes dans la foi du Christ jusqu'à la fin. Cela a commencé avec eux et cela commence avec nous. Nous qui sommes de la première génération de membres, qui ont acquis un témoignage, nous avons maintenant la responsabilité d'instruire les enfants d'aujourd'hui. Nous devons les instruire au foyer et dans nos classes. Nous devons leur enseigner la parole de Dieu à partir des Écritures. Nous devons leur enseigner le pouvoir de la prière ainsi que les bénédictions qui découlent du fait de contracter et de respecter des alliances. Et si nous les instruisons, ils pourront dire, Nous ressemblons aux guerriers des Lamanes, comme eux très tôt préparés. Nous partirons servir notre Sauveur proclamant la vérité. Au nom de Jésus-Christ, amen.
The choir and congregation.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter tout au sommet des monts. Après le cantique, nous entendrons Glenn L. Pace des 70 et M. Russell Ballard du Collège des 12 apôtres. Le chœur chantera ensuite For he shall give his angels to watch over thee. Puis When faith endures. Nous allons tous chanter.
This is the 177th annual general conference.
Vous assistez à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Some time ago, I had a delightful conversation with an impressive 16-year-old.
Il y a quelque temps, j'ai eu une conversation merveilleuse avec une jeune fille de 16 ans impressionnante. J'ai appris qu'elle était le seul membre de l'église à son lycée. Je lui ai demandé, qu'y a-t-il de plus difficile dans le fait d'être le seul membre de l'église? Elle a réfléchi et m'a donné une réponse très perspicace. C'est croire que quelque chose est vrai quand tout le monde croit que c'est faux, et croire que quelque chose est mal quand tout le monde croit que c'est bien. Je lui ai posé une deuxième question. Sais-tu que Joseph Smith est un prophète de Dieu? Sa réponse a été, oui, je crois, mais je ne suis pas sûr. Ce matin, j'aimerais demander aux jeunes de l'Église entière, savez-vous? J'ai su pour la première fois que j'avais un témoignage quand j'avais à peine 11 ans et que mes parents m'ont emmené à Temple Square à Salt Lake City. Ce que j'ai préféré a été de collectionner tout ce qui était gratuit. Je suis devenu un expert en la matière. Je demandais, c'est gratuit? Une réponse positive et je tendais ma petite main de 11 ans en disant, merci. Et ça aussi, c'est gratuit? Merci. Parfois, on me répondait, non, je suis désolé, ça coûte 5 cents. Et ne me laissant pas décourager, je baissais la tête, me montrais une grande déception et je disais, « Oh, j'ai toujours voulu lire cette brochure, mais je n'ai pas d'argent. Merci. » Merci. Cela marchait à chaque fois. La vérité, c'est que je ne la lisais jamais. Je ne faisais que collectionner. Cependant, durant ce voyage, je me suis retrouvé tout seul dans notre Chevrolet de 1948 à attendre mes parents et j'ai commencé à m'ennuyer à mourir. En désespoir de cause, j'ai regardé le siège et j'ai aperçu ma pile d'articles gratuits. J'ai pris une brochure intitulée « Joseph Smith raconte son histoire » et j'ai commencé à la lire. J'étais fasciné et rempli de joie. Après l'avoir lu, j'ai vu mon visage dans le rétroviseur et à ma grande surprise, je pleurais. Je ne comprenais pas à cette époque, maintenant si. J'avais ressenti un témoignage de l'esprit. Mes parents n'étaient pas là. Ma sœur non plus. Mon instructeur de la primaire non plus. C'était juste moi et l'esprit du Saint-Esprit. Cela peut vous arriver. Et il est probable que quelque chose de semblable vous est déjà arrivé. Il arrive que les personnes à la recherche d'un témoignage qui sont nées dans l'Église, comme certains d'entre vous, recherchent des sentiments spirituels spectaculaires qui diffèrent de tous ceux qu'ils ont déjà ressentis. Vous avez déjà entendu des convertis témoigner de leur conversion? Et vous êtes-vous demandé si quelque chose ne vous manquait pas? Une des raisons pour lesquelles cela semble si spectaculaire, c'est que c'est nouveau. Vous avez eu ce genre de sentiment toute votre vie, au cours de soirées familiales, de réunions de témoignages pour les jeunes, de réunions de Sainte-Cène, de cours de séminaires, de vos lectures des Écritures et à de nombreuses autres occasions. On forme les missionnaires pour qu'ils aident les amis de l'Église à reconnaître l'Esprit quand ils le ressentent. Je me rappelle en de nombreuses occasions m'être arrêté au milieu d'une discussion spirituelle intense et avoir dit « Arrêtons-nous un instant et parlons de ce que vous ressentez en ce moment. Vous avez l'impression que l'on vient de vous rappeler des choses que vous y aviez oubliées. Vous ressentez la vérité de nos propos, vous ressentez la paix, vous ressentez le Saint-Esprit. » Je me rappelle avoir enseigné l'Évangile à une femme extrêmement intelligente qui avait de la difficulté à accepter quoi que ce soit avant d'avoir résolu toutes ses interrogations intellectuelles. Toutefois, nous l'avons finalement entendu dire. Je ne peux nier ce sentiment plus longtemps. Elle s'est jointe à l'Église et a été très heureuse au cours des années qui ont suivi. Mais peu à peu, elle a laissé ses doutes intellectuels se glisser à nouveau en elle et elle a fini par quitter l'Église. 15 ans plus tard, et elle est venue rendre visite à notre famille. Nous l'avons emmenée à Temple Square. En montant la rampe circulaire qui conduit à la statue du Sauveur, elle s'est arrêtée et a dit les larmes aux yeux, « Revoici ce même sentiment. Mon cœur aspire encore à ce que mon esprit ne veut accepter. » Une fois que l'on a éprouvé ce sentiment, on ne peut plus jamais l'oublier. Les témoignages spirituels s'acquièrent jeunes pour les personnes qui sont exposées à des expériences spirituelles. Nous, parents et dirigeants, sommes doués pour veiller à ce que vous compreniez les règles et les commandements. Nous pourrions faire mieux pour ce qui est de vous aider à acquérir un témoignage des principes et de la doctrine. Peut-être pourrions-nous nous arrêter plus souvent et vous aider à apprendre à reconnaître l'esprit. Une fois que vous reconnaissez ces sentiments en tant que tels, votre foi en eux grandira. Vous vous rendrez compte bientôt que vous avez développé un sixième sens spirituel qui ne peut induire en erreur. À 11 ans, j'ai su que Joseph Smith est un prophète de Dieu. Je n'ai pas entendu de voix, ni vu d'ange, ni rien de tout cela. Ce que j'ai ressenti était beaucoup plus sûr. Mon sens spirituel avait été touché. J'ai ressenti de l'allégresse venir du tréfonds de mon être. Qui est protégé de toute tromperie. Le sens spirituel ne vibre que s'il est activé par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce témoignage spirituel nous fait ressentir? C'est aussi difficile à décrire que le parfum d'une rose, le chant d'un oiseau ou la beauté d'un paysage. Cependant, on sait quand on le ressent. Les Écritures nous donnent quelques éclaircissements sur ces sentiments. En vérité, je te le dis, je te donnerai de mon esprit ce qui éclairera ton intelligence, ce qui remplira ton âme de joie, et alors tu connaîtras. Parfois, le sentiment est comme un souvenir. Nous avons appris l'Évangile premièrement dans notre demeure céleste. Nous sommes venus sur cette terre avec un voile d'oubli. Et cependant, dans chacun de nos esprits subsistent ces souvenirs qui sommeillent. Le Saint-Esprit peut écarter le voile et à réveiller ces souvenirs qui dorment. Souvent, ma réaction à une prétendue découverte d'une vérité nouvelle est « Oh, je me le rappelle, le Consolateur, l'Esprit Saint, vous rappellera tout ce que j'ai dit. » Mes jeunes frères et sœurs, je vous invite à faire l'expérience de mes paroles. Lirez-vous et prierez-vous au sujet de l'histoire de Joseph Smith? Ce qu'il y a de merveilleux dans le fait de savoir que cela est vrai et de savoir en même temps que Dieu le Père et Jésus-Christ existent et sont à la tête de l'Église aujourd'hui. J'ai acquis cette connaissance quand j'avais 11 ans. Et maintenant, je me tiens devant vous en tant que témoin spécial de Jésus-Christ. Et je témoigne que cela est vrai. Je témoigne aussi que le Sauveur, le Seigneur, veut que vous sachiez que cela est vrai. Et il vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes frères et sœurs, la Sainte Bible est un miracle. C'est un miracle que les 4000 années d'histoire sacrée et profane de la Bible aient été mises par écrit et préservée par des prophètes, des apôtres et des hommes d'Église inspirés. C'est un miracle que nous ayons la doctrine, les principes, la poésie et les histoires formidables de la Bible. Mais c'est surtout un miracle merveilleux qu'un récit de la vie, du ministère et des paroles de Jésus ait été protégé au cours de l'âge des ténèbres et à travers les conflits d'innombrables générations pour que nous puissions la voir aujourd'hui. C'est un miracle que la Bible contienne littéralement dans ses pages l'esprit convertisseur et guérisseur du Christ, qui a tourné le cœur des hommes pendant des siècles, les amenant à prier, à choisir le bon chemin et à chercher à trouver leur Sauveur. La Sainte Bible est la bien nommée. Elle est sainte parce qu'elle enseigne la vérité, sainte parce qu'elle nous réchauffe de son esprit, sainte parce qu'elle nous apprend à connaître Dieu et à comprendre ses relations avec les hommes, sainte parce qu'elle témoigne dans toutes ses pages du Seigneur Jésus-Christ. Abraham Lincoln a dit de la Bible, « Ce grand livre est le meilleur don que Dieu ait fait à l'homme. Tout le bien que le Sauveur a donné au monde a été communiqué par ce livre. Sans lui, nous ne distinguerions pas le bien du mal. » Ce n'est pas par hasard, ni par coïncidence que nous avons la Bible aujourd'hui. Des justes ont été poussés par l'Esprit à mettre par écrit les choses sacrées qu'ils ont vues et les paroles inspirées qu'ils ont entendues et dites. D'autres hommes dévoués ont été poussés à protéger et à préserver ces documents. Des hommes comme John Wycliffe, le courageux William Tyndale et Johannes Gutenberg ont été poussés, en dépit de beaucoup d'opposition, à traduire la Bible en une langue que le peuple pouvait comprendre et à la publier dans des livres que le peuple pouvait lire. Je crois que même les savants du roi James ont été animés par l'esprit dans leur travail de traduction. L'âge des ténèbres doit son nom au fait que la lumière de l'Évangile a été cachée aux hommes. Les gens d'alors n'avaient ni apôtres ni prophètes, et ils n'avaient pas non plus accès à la Bible. Le clergé veillait à ce que les Écritures restent secrètes et ne soient pas accessibles au peuple. Nous devons beaucoup aux nombreux martyrs et réformateurs courageux, comme Martin Luther, Jean Calvin et Jean Hus, qui ont exigé la liberté de culte et l'accès de tous aux livres saints. William Tyndale a donné sa vie du fait de sa profonde croyance au pouvoir de la Bible. Il a dit, « La nature de la parole de Dieu est que quiconque la lit ou entend qu'on la raisonne et la conteste commence immédiatement à devenir quotidiennement meilleur jusqu'à ce qu'il soit devenu un homme parfait. » L'étude honnête et diligente de la Bible nous rend effectivement meilleurs, et nous devons toujours nous rappeler les martyrs innombrables qui ont connu son pouvoir et qui ont donné leur vie pour que nous puissions trouver dans ses paroles le chemin du bonheur et de la paix éternelle du royaume de notre Père céleste. Bien que ces anciens réformateurs chrétiens aient été d'accord sur beaucoup de choses, ils étaient finalement en désaccord sur beaucoup de points de doctrine. Cela a eu comme conséquence l'organisation de nombreuses confessions chrétiennes. Roger Williams, en son temps champion de la liberté religieuse, a écrit « Il n'y a aucune église régulièrement constituée sur la terre, ni aucune personne qualifiée pour administrer une ordonnance quelconque de l'église. » Et il ne pourra y en avoir que lorsque de nouveaux apôtres seront envoyés par le grand chef de l'Église dont j'attends la venue. Des dizaines de millions de personnes ont acquis la foi en Dieu et en Jésus-Christ en cherchant la vérité par la Sainte Bible. Innombrables ont été ceux parmi eux qui n'avaient que la Bible pour alimenter et guider leur foi. Grâce aux efforts des réformateurs, la Bible est devenue accessible à tous. La parole de Dieu était lue autour de l'âtre familial des humbles aussi bien que dans le salon des puissants. Des millions de familles se sont réunies pour essayer de trouver l'Église de Jésus-Christ par leur étude de la Bible. Une de ces familles, au début des années 1800, dans le nord de l'État de New York, était la famille de Joseph Smith, père. Un de ses fils était Joseph Smith, fils, qui a sondé la Bible, cherchant à savoir laquelle des nombreuses confessions était l'Église de Jésus-Christ. Il a été poussé par les paroles de la Bible à prier pour avoir davantage de lumière et de connaissances spirituelles de la part de Dieu. Bien décidé à chercher la sagesse promise dans l'Écriture sainte, Joseph s'est mis à genoux pour prier humblement au début du printemps de 1820. Ah, quelle lumière et quelle vérité merveilleuse se sont déversées sur lui ce jour-là, quand il a vu la manifestation glorieuse de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Dieu avait une fois de plus appelé un prophète, comme du temps de Noé, d'Abraham et de Moïse. Comme nous devrions être reconnaissants d'avoir la Sainte Bible. Nous y apprenons non seulement la vie, les enseignements et la doctrine du Christ, mais nous apprenons aussi ce qui concerne son Église, sa prêtrise et l'organisation qu'il a établie et qu'il a appelée l'Église de Jésus-Christ des anciens jours. Nous croyons en cette Église et nous croyons que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est cette même Église, rétablie sur la terre, complète et avec cette même organisation et cette même prêtrise. Sans la Bible, nous ne saurons rien de son Église d'alors et nous n'aurions pas la plénitude de son Évangile maintenant. J'aime la Bible. J'aime ses enseignements, ses leçons et son esprit. J'aime les histoires fascinantes et profondes de l'Ancien Testament et le témoignage de ses grands prophètes concernant l'avènement du Christ. J'aime les voyages et les miracles apostoliques du Nouveau Testament et les lettres de Paul. Ce que j'aime surtout, ce sont ces récits de témoins oculaires, des paroles, de l'exemple et de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. J'aime la vision et la paix que l'on reçoit en lisant la Bible. Frères et sœurs, je suis sûr que beaucoup parmi vous ont eu l'occasion d'entendre des gens dire que les Mormons ne sont pas chrétiens parce qu'ils ont leur propre Bible, le Livre de Mormon. Nous disons à ceux qui entretiennent cette idée fausse que nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est notre Sauveur et l'auteur de notre salut, et que nous croyons, vénérons et aimons la Sainte Bible. Nous avons effectivement d'autres écrits sacrés, notamment le Livre de Mormon, mais il soutient la Bible, ne la supplantant ni ne s'y substituant jamais. Jésus a enseigné que nous devions sonder les Écritures. Il a ajouté que ce sont elles qui rendent témoignage de lui. Ces paroles inspirent tous les gens qui cherchent sincèrement à connaître et à comprendre la vérité sur Jésus-Christ. Les Écritures sont riches en histoire, en doctrine, en récits, en sermons et en témoignages qui tournent tous, en fin de compte, autour du Christ éternel et de sa mission physique et spirituelle auprès des enfants de notre Père céleste. Les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours croient que toute Écriture est inspirée de Dieu et est utile. Nous aimons la Bible et les autres Écritures. Cela peut étonner certains qui ne sont pas au courant que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu révélée. Elle est l'un des piliers de notre foi, un témoin puissant du Sauveur et de l'influence continuelle du Christ dans la vie des gens qui l'adorent et le suivent. Plus nous lisons et étudions la Bible et ses enseignements, plus claire est notre vision des bases doctrinales de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Nous avons tendance à aimer les Écritures avec lesquelles nous passons du temps. Il se peut que nous devions équilibrer notre étude afin d'aimer et de comprendre toute l'Écriture. Vous, les jeunes en particulier, ne négligez ni ne dévaluez la Sainte Bible. C'est le livre sacré de la vie de notre Seigneur. La Bible contient des centaines de pages de plus que toutes nos autres Écritures réunies. C'est la base de tout le christianisme. Nous ne critiquons ni ne déprécions les croyances de qui que ce soit. Notre grande responsabilité de chrétien est de dire à tous ses fils et filles tout ce que Dieu a révélé. Les gens qui deviennent membres de l'Église n'abandonnent pas leur foi en la Bible, ils la renforcent. Le Livre de Mormon ne dilue, ni ne diminue, ni ne relègue la Bible. Au contraire, il l'étend, la prolonge et l'exalte. Il n'y a pas de désaccord entre la Bible et le Livre de Mormon. Le Livre de Mormon témoigne de la Bible et les deux témoignent du Christ. Le premier testament du Christ est l'Ancien Testament de la Bible qui a prédit et prophétisé l'avènement du Sauveur, sa vie transcendante et son expiation libératrice. Le deuxième testament de la Bible concernant le Christ est le Nouveau Testament, qui rapporte sa naissance, sa vie, son ministère, son évangile, son Église, son expiation et sa résurrection, ainsi que le témoignage de ses apôtres. Le troisième testament du Christ est le Livre de Mormon, qui prédit également la venue du Christ, confirme le récit biblique de son expiation salvatrice, et puis révèle la visite du Seigneur ressuscité à l'autre hémisphère de la terre. Le sous-titre du Livre de Mormon, la déclaration qui en explique le but, imprimée sur la couverture de chaque exemplaire, est « Un témoignage de Jésus-Christ ». Chacun de ces trois testaments fait partie du grand tout indivisible de la parole révélée du Seigneur à ses enfants. Ils contiennent les paroles du Christ dont il nous est recommandé de nous faire un festin pour nous qualifier pour la vie éternelle. Ceux qui pensent qu'une partie est plus importante ou plus vraie que les autres perdent une partie de la beauté et de la perfection du canon de l'Écriture antique. Et ceux qui pensent que les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne croient pas en Jésus-Christ ou en la Bible devraient prendre le temps de comprendre l'Église, l'importance de son nom et la force de son message. Je suis perplexe quand il y en a qui mettent en doute la croyance de l'Église en la Bible et notre situation comme chrétiens. Le nom de l'Église est l'Église de Jésus-Christ. À notre dernière conférence générale, ici dans ce bâtiment, les dirigeants de l'Église ont cité la Bible près de 200 fois. L'Église est organisée et fonctionne comme l'Église que le Christ et ses apôtres ont établi dans le Nouveau Testament. Sur l'estrade sont assis aujourd'hui le prophète et les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Je rends solennellement témoignage que nous croyons vraiment et pleinement au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et en sa parole révélée par la Sainte Bible. Nous croyons non seulement à la Bible, mais nous nous efforçons de suivre ses préceptes et d'enseigner son message. Le message de nos missionnaires est le Christ et son évangile et son expiation, et les Écritures sont le texte de ce message. Nous disons à tous les hommes, nous vous apportons notre amour et nous vous invitons à venir partager tout ce que Dieu a révélé. Mes frères et sœurs, puissions-nous apprécier et comprendre plus complètement le pouvoir de la Sainte Bible. Et puissions-nous aider les gens qui ne sont pas de notre religion à comprendre la force de notre foi en la Bible, l'instrument qui nous amène, nous et toute l'humanité, à accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur. De cela, je témoigne en son saint nom. Amen.
Thank you.
My beloved brothers and sisters,
mes frères et sœurs bien-aimés, je suis heureux d'avoir l'occasion de vous parler ce matin. Je remercie chacun de vous de vos prières en ma faveur. Je vous suis profondément reconnaissant. Dans mes 49 années comme autorité générale, j'ai parlé plus de 200 fois à la conférence générale. Je suis maintenant dans ma 97e année. Le vent souffle et j'ai l'impression d'être la dernière feuille sur l'arbre. En fait, ma santé est tout à fait bonne, en dépit de tout ce qu'on peut raconter. Des médecins et des infirmières compétents me gardent sur la bonne voie. Et il y en a parmi vous qui partiront peut-être avant moi. Néanmoins, en étant tout à fait conscient de mon âge, je souhaite vous rendre mon témoignage des vérités fondamentales de cette œuvre. J'admets ne pas connaître toutes choses, mais il y a des choses dont je suis certain. Ce sont les choses que je sais dont je vous parle ce matin. Quand il s'est converti au christianisme, l'empereur Constantin s'est rendu compte de la désunion qui régnait au sein du clergé au sujet de la nature de la divinité. Pour essayer de résoudre ce problème, il a réuni en l'an 325 des ecclésiastiques éminents de son temps à Nicée. Chaque participant a eu l'occasion de donner son point de vue. La dispute n'en est devenue que plus violente. Comme il était impossible de se mettre d'accord sur une définition, on a opté pour un compromis. C'est ce qu'on a appelé le credo du Concile de Nicée. Et la plupart des fidèles chrétiens en récitent les éléments de base. Personnellement, je n'arrive pas à le comprendre. C'est un credo que je trouve très confus. Comme je suis reconnaissant que dans l'Église, nous ne nous basions pas sur aucune déclaration formulée par les hommes sur la nature de la divinité. Notre connaissance vient directement de l'expérience personnelle de Joseph Smith, qui, alors qu'il était encore un jeune garçon, a parlé avec Dieu, le Père éternel, et son Fils bien-aimé, le Seigneur ressuscité. Il s'est mis à genoux en leur présence. Il a entendu leur voix et il a répondu. Chacun était une personnalité distincte. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il ait dit à sa mère qu'il avait appris que son Église n'était pas vraie. Et ainsi, un des points de doctrine majeurs de l'Église est que nous croyons en Dieu, le Père éternel. C'est un être, il est réel, c'est une personne. Il est le grand gouverneur de l'univers. Et cependant, il est notre Père et nous sommes ses enfants. Nous le prions et ses prières sont une conversation entre Dieu et l'homme. Je suis assuré qu'il entend nos prières et y répond. Je ne pourrais pas le nier. J'ai eu trop d'expériences de prières exaucées. Alma a dit à son fils Helaman, « Consulte le Seigneur dans toutes tes actions, et il te dirigera dans le bien. Oui, lorsque tu te couches le soir, couche-toi dans le Seigneur, afin qu'il veille sur toi dans ton sommeil. Et lorsque tu te lèves le matin, que ton cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. » La deuxième grande certitude, dont je suis sûr, trouve, elle aussi, son fondement dans la vision de Joseph le prophète. C'est que Jésus vit. Il est le Christ vivant. Il est le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Messie du Nouveau, sous la direction de son Père. Il a été le Créateur de la Terre. L'Évangile de Jean s'ouvre sur ces mots remarquables. Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Notez en particulier ce dernier verset. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Il a été le grand créateur. C'est son doigt qui a écrit les commandements sur la montagne. C'est lui qui a quitté sa demeure royale d'en haut et est venu sur la terre, est né dans les plus humbles des circonstances. Pendant son bref ministère, il a guéri les malades, rendu la vue aux aveugles, ressuscité les morts et réprimandé les scribes et les pharisiens. Il a été le seul homme parfait à jamais marcher sur la terre. Tout cela faisait partie du plan de son Père. Dans le jardin de Gethsémané, il a tant souffert que des gouttes de sang sont sorties de ses pores tandis qu'il suppliait son Père. Mais tout cela faisait partie de son grand sacrifice expiatoire. Il a été saisi par les émeutiers, a comparu devant Pilate, tandis que les émeutiers réclamaient sa mort à grands cris. Il a porté la croix, l'instrument de sa mort. Sur le Golgotha, il a donné sa vie en s'écriant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Son corps a été tendrement couché dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais 3 jours plus tard, en ce premier matin de Pâques, le tombeau était vide. Marie de Magdala lui a parlé, et il lui a parlé. Il est apparu à ses apôtres. Il a marché avec 2 étrangers sur le chemin d'Emmaüs. Et, nous dit-on, il a été vu par environ 500 autres personnes. Il avait dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. » Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. En effet, il est apparu aux personnes assemblées au pays d'abondance, en Amérique. Il y a instruit le peuple, comme il avait fait dans le vieux monde. Tout cela est rapporté en détail dans le livre de Mormon, qui se tient comme second témoin de la divinité de notre Seigneur. Et pour le répéter, son père et lui, tous deux sont apparus au jeune Joseph, le père présentant le fils en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » La chose suivante dont je suis certain et dont je rends témoignage, c'est l'expiation du Seigneur Jésus-Christ. Sans elle, la vie n'a pas de sens. C'est la clé de voûte de l'arche de notre existence. Elle affirme que nous avons vécu avant de naître dans la condition mortelle. La condition mortelle n'est qu'un tremplin vers une existence future plus glorieuse. La douleur de la mort est atténuée par la promesse de la résurrection. Il n'y aurait pas de Noël s'il n'y avait pas de Pâques. Je parle ensuite des grandes certitudes qui ont accompagné le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ. Il y a le rétablissement de la prêtrise, c'est-à-dire de l'autorité donnée à l'homme de parler au nom de Dieu. Cette prêtrise est de 2 ordres. Le moindre, également connu sous le nom de prêtrise d'Aaron, a été rétabli par Jean-Baptiste. L'ordre supérieur de la prêtrise, celui de Melchizédek, a été rétabli par les mains de Pierre, Jacques et Jean. En rétablissant la prêtrise d'Aaron, Jean-Baptiste, ressuscité, a posé les mains sur la tête de Joseph Smith et d'Oliver Cordery et a dit, « À vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je confère la prêtrise d'Aaron, qui détient les clés du ministère d'ange, de l'évangile de repentir et du baptême par immersion pour la rémission des péchés. » Dans ses vieux jours, le président Wilford Woodruff a parlé aux jeunes hommes de l'Église et a déclaré, « Je désire que vous vous imprégniez bien du fait que cela ne fait aucune différence, qu'un homme soit prêtre ou apôtre, tant qu'il magnifie son appel. Un prêtre détient les clés du ministère d'ange. Jamais dans ma vie, comme apôtre, comme 70 ou comme ancien, je n'ai eu plus la protection du Seigneur que pendant que je détenais l'office de prêtre. La prêtrise de Melchizédek ou prêtrise supérieure donne aux hommes le pouvoir d'imposer les mains et de donner aux autres des bénédictions. Ils bénissent les malades. Comme Jacques le dit dans le Nouveau Testament, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Je parle enfin des bénédictions de la maison du Seigneur qui découlent du rétablissement de l'Évangile originel. Ces temples que nous avons considérablement multipliés ces dernières années offrent des bénédictions que l'on ne peut obtenir nulle part ailleurs. Tout ce qui se passe dans ces maisons sacrées a un lien avec la nature éternelle de l'homme. Ici, Marie, femmes et enfants sont scellés ensemble en tant que famille pour toute l'éternité. Le mariage n'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare. Il est pour toujours, si les parties vivent de manière à être dignes des bénédictions. La plus remarquable de toutes est l'autorité d'accomplir une œuvre par procuration dans la maison du Seigneur. Ici, des ordonnances sont faites pour les morts, qui n'ont pas eu l'occasion de les recevoir de leur vivant. On m'a récemment parlé d'une sœur veuve à Idaho Falls. Pendant 15 ans, elle a donné l'occasion à 20 000 personnes de recevoir par son intermédiaire leur dotation au temple d'Idaho Falls. Elle a accompli sa 20 millième dotation un vendredi et est retournée le samedi pour en faire 5 de plus. Elle est décédée la semaine suivante. Pensez un peu à ce que ces petites femmes a réalisé à elles seules. Elle a accompli ses dotations par procuration pour autant de personnes qu'il y en a d'assemblées ce matin dans ce centre de conférence. Pensez à l'accueil qu'elle a dû recevoir de l'autre côté. Voici, mes frères et sœurs, c'est mon témoignage que je rends solennellement devant vous. Que Dieu vous bénisse tous, saints des derniers jours fidèles. Puisse la paix et l'amour régner dans votre foyer, et la foi et la prière vous guider dans tout ce que vous entreprenez. C'est là mon humble prière, au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Et nos remerciements sincères à toutes les personnes qui ont participé à la session de quelque manière que ce soit. le chœur chantera « Ô mon Père ». Ensuite, Wong Yong-ko des 70 fera la prière de clôture. La dernière session de cette conférence commencera à 14 heures cet après-midi.
Thank you. Oh, Father in heaven.
Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants de cette magnifique conférence où nous avons ressenti ton esprit à travers de nombreux discours et témoignages, reconnaissant du magnifique prophète et des dirigeants. Veuille nous bénir afin que nous apportions avec nous ces vérités que nous avons entendues et les appliquions dans notre vie. Aide-nous à suivre nos dirigeants. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 177th.
Vous venez d'assister à la 177e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon.